les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions. Fred vous répond. Eh bien, je suis là pour justement vous répondre. Vous savez que vous pouvez soumettre vos questions, vous aussi, sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la création de société, mais aussi tout simplement la croissance d'une activité business. Et puis des équipes et des produits. Donc cette semaine, je suis prêt, j'attends les questions.
Oui, alors on va commencer d'abord avec la question de Marie-Laure. Comment faire en sorte que l'organisation interne suive le rythme de l'hypercroissance ?
Alors l'hypercroissance, donc déjà reprenons la définition, c'est quelque chose qui grandit et qui grandit très très vite. Qui dit grandir vite dit robustesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vite si on n'a pas cadré les choses, parce que sinon ça part en étoile ou alors ça part dans le mur. Et donc c'est d'autant plus vrai quand ça accélère vite. Donc il faut simplifier et il faut affirmer les choses qui fonctionnent. Alors simplifier, ça veut dire souvent rendre les choses aussi plus robustes, c'est-à-dire enlever les fioritures. Enlever des cas qui seraient non utilisés, qui serait optionnel, et il faut se concentrer sur le cœur de ce qui fonctionne vraiment bien. Donc on optimise son produit pour qu'il aille plus vite, pour qu'il aille, qu'il soit plus simple à utiliser. On passe son temps à faire en sorte que ce soit de plus en plus simple d'utiliser le produit. On écoute, alors puissance 10, les retours évidemment des clients, parce que justement quand on grandit très très vite, on commence à arriver vers des clients nouveaux aussi d'un autre type. Au début, on a des early adopters, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui, de toute manière, quoi qu'il arrive, même si le produit était mal fichu, l'utiliseraient. Parce qu'ils ont vraiment envie de l'utiliser. Et après, on arrive sur une autre catégorie de personnes qui veulent simplement un produit qui remplit la fonction et qui soit extrêmement simple à utiliser. Donc, ça oblige à rendre tout un petit peu plus simple.
On enchaîne avec la question d'Alexia. Est-ce toujours pertinent d'étendre son produit ou service à l'international ?
Alors, premièrement, non, c'est pas toujours pertinent. Tout comme c'est pas toujours pertinent d'aller lever des fonds non plus. Parce que des fois, il peut y avoir des acteurs locaux qui sont déjà très forts sur la question. Donc, y aller, c'est vraiment du coup beaucoup plus difficile. Après, si on se sent assez fort, déjà il faut d'abord être très fort dans son pays pour pouvoir penser à l'international, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on nourrisse non seulement sa croissance en local, mais aussi à l'international. Donc ça veut dire beaucoup beaucoup d'efforts pour les équipes, c'est quand même une tension très très forte. Par contre, il y a des très bonnes raisons de s'étendre à l'international, notamment s'il faut qu'on arrive sur une économie de coûts par rapport au volume de transactions qu'on doit faire. C'est-à-dire que plus on va faire des transactions, plus on va pouvoir avoir des revenus et donc financer l'innovation, la simplification de son produit et donc réussir à rester à la pointe tout en finançant sa R&D, son innovation. Parce que si on n'a pas assez de clients pour ça, on va avoir un produit qui malheureusement ne pourra pas se nourrir suffisamment de ressources pour s'améliorer. Parce que l'innovation, ça coûte cher. La R&D, ça coûte cher. Faire avancer son produit, ça coûte cher. Et donc, il faut avoir une vision aussi de l'international, tout simplement comme une expansion de marché, pour avoir plus de moyens pour justement réussir à mieux construire son produit et à rester à la pointe. Voilà, il faut toujours aussi, quand on s'étend à l'international, garder les pieds sur terre. Il y a des choses à faire. Il y a trois étapes. Il y a une étape de préparation, une étape d'expansion, une étape de réception. Ce sont des sujets que j'aborde d'ailleurs beaucoup dans Mission
Blablacar, le MBA de l'entrepreneuriat, quand même. Tu l'as sorti cette année ?
Oui, il vient de sortir et j'ai mis à peu près tout ce que j'ai appris en 15 ans d'entrepreneuriat.
Voilà, donc là vous avez un MBA de l'entrepreneuriat en quoi ? Moins de 300 pages, plus de 500 conseils.
Ouais, c'est très facile à...
La réussite, elle est peut-être là-dedans.
Et c'est très facile à lire parce qu'en fait, c'est des dialogues. Et puis, il y a aussi plein d'exemples. Il y a une quarantaine d'exemples d'autres sociétés. On y voit comment on fait la créativité chez Pixar, comment on fait l'optimisme à la Maïf, comment on fait la culture chez Patagonia, le recrutement chez Amazon. Bon, on prend plein d'exemples. Et puis après, il y a des fiches méthodes qui abordent un petit peu tous les sujets de l'entrepreneur, tout ce qu'il faut avoir abordé en tant qu'entrepreneur, le produit, la marque, l'international, le recrutement, voilà, la culture, enfin tout ce qui fait que votre marche.
Et c'est chez Erol.
C'est aux éditions Erol.
Merci beaucoup.
RMC 2006.
Alors j'aimerais qu'on prenne un ou deux petits cas concrets. Le plus notable, c'est le coup de boule de Zidane.
2010.
Ces joueurs ne sont pas bons parce que techniquement ils ne sont pas forts et parce que mentalement ils sont pourris.
2018.
Avec la frappe de Pavard.
2022. C'est dès le 20 novembre en intégralité sur RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Téléchargez tout de suite l'appli RMC.